Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Est-ce qu'on vient le découvrir?
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème!
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial!
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, 30 minutes pour parler cinéma et pour rendre hommage à un réalisateur. Deux sont morts dernièrement, mais nous allons rendre avant tout hommage à David Lynch, mort le 15 janvier à l'âge de 78 ans. Nous ferons un blind test avec 10 extraits, et ça tombe bien parce que ça correspond au nombre de longs métrages du réalisateur américain sorti en salle. Sophia, tu as vu un film français avec Vincent Lindon?
Oui, je vous parlerai de Jouer avec le feu.
Et puis toi, Guillaume?
Moi, d'un film qui ne sort malheureusement pas en salle, qui s'appelle Night Beach.
Et toi, Manu, deux films?
Ce sera Toute prude et On the Go.
Mais nous commençons avec un père démuni face à la dérive extrémiste de son fils. C'est Jouer avec le feu.
Cinérama.
Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas?
Actualité, cinéma et tout le reste.
Pas très compliqué à comprendre.
Qu'est-ce que tu vas faire maintenant?
J'ai été pris à la Sorbonne aussi.
Qu'est-ce que je veux foutre moi avec mon BUT métallurgie?
Arrête.
Les sœurs Coulin, Delphine et Muriel signent leur troisième long métrage à quatre mains après 17 filles en 2011 où elles racontaient l'histoire d'un groupe de jeunes femmes cherchant à tomber enceinte ensemble et voir du pays en 2016 sur le retour d'Afghanistan de deux femmes militaires. Elles réalisent et scénarisent Jouer avec le feu, adaptation du roman Ce qu'il faut de nuit de Laurent Petit-Mangin, prix Fémina des lycéens en 2020. Jouer avec le feu s'intéresse à notre société, encore une fois, sur fond de famille, d'éducation, de déclassement et de droitisation radicale. Dès les premiers instants du métrage, une scène inaugurale plastique, marquante, qui laisse la part belle au corps d'un jeune homme dans une expressivité primaire, violente, laisse entrevoir ce qui nous attend. Celui-ci pratique en effet le moshing, une danse frénétique associée aux scènes punk ou métal, où des mouvements rapides, amples et circulaires, des bras et des jambes, créent une violence incontrôlée. Cette expressivité, brute et chaotique, donne immédiatement le ton au film.
Hier, on collait des affiches pour la manif, et il y avait une bande de pieds niqués qui taguait au bout des voies. Il y avait un gars qui avait la dégaine de ton gamin.
Qu'est-ce que tu fabriques?
J'accompagnais des potes.
C'est bien commencé, hein. Il y a des ténures. Il y retourne la tête des gosses.
Non, c'est pas seulement des ultras.
Allez, c'est bon, je me casse d'ici. Je te laisse avec ton fils parfum.
Pousse.
L'intrigue se situe dans les environs de Metz, en Lorraine, où Pierre, donc Vincent Lindon, cheminot, veuf, élève seul ses deux enfants, deux jeunes adultes. Louis, plutôt studieux, est en prépa pour entrer idéalement à la Sorbonne, hein, promis un bel avenir. Et l'autre fils, Fousse, est en études technologiques en métallurgie, fan de foot mais ancré dans un territoire post-industriel à la marge, avec bien moins de perspectives. Et là, le sous-texte du film se révèle rapidement, de manière explicite, hein, lorsqu'après la scène inaugurale, le montage nous introduit donc Pierre, le père aimant, qui boit son café en écoutant une chronique radio, évoquant une génération oubliée et un désintérêt politique envers la jeunesse depuis plus de 10 ans. Rapidement, Pierre, ancien syndicaliste, hein, très à gauche, découvre que son fils fréquente des individus aux idées inquiétantes et prend part à des actions liées à l'ultra-droite. Ce dernier, effectivement, minimise, hein, c'était juste pour accompagner des potes, mais Pierre, déboussolé, tente de percer le mystère en explorant l'ordinateur de son fils, où il plonge, à travers ses recherches, dans la fachosphère. Requête explicite sur des groupuscules nationalistes, puis un site, lafranceoufrançais.fr, qui porte bien son nom, où des vidéos prônent une violence exacerbée, mêlant raids, émeutes et culte de la performance physique. Ici, l'addiction est idéologique, une idéologie qui promet à Fousse un sentiment d'appartenance et de contrôle dans un monde où il se sent abandonné.
Je dirais que c'est jamais assez bien pour toi ce qu'il fait. N'est pas obligé de tout faire comme toi.
Ta vie, c'est pas l'entrée de ton frère dans tes putains d'histoires, t'as compris? Tu gâches ta vie si tu veux, mais pas la sienne.
Tu peux rien contre moi.
Si ta mère te voyait, je te jure.
T'as dit quoi?
J'ai dit si ta mère te voyait.
Tu dis pas, c'est fort. Tu répètes plus jamais ça de ta vie. T'entends?
Bien sûr.
T'entends?
Arrête.
La mise en scène des sœurs Coulin capte cette désintégration familiale avec un regard féminin sur ce monde d'hommes sans femmes, avec une sensibilité viscérale, une caméra organique proche des corps et des émotions. Chaque plan aussi entre la pénombre des plans en intérieur qui contraste avec la surexposition constante de l'extérieur, symbolisant peut-être l'impossible protection d'un père face à l'éclatante violence du monde. Cette violence prend d'ailleurs toute son ampleur dans des lieux hautement symboliques, en gares désaffectées, vestiges industriels, industriel où ont travaillé des générations d'ouvriers aujourd'hui oubliés, les pères, grands-pères de ces jeunes hommes. Ces espaces, autrefois lieux de production, deviennent des théâtres de rituels cathartiques, camps d'entraînement et rassemblements ultra-violents qui reflètent un mal-être collectif enraciné dans le déclassement, la quête de sens et d'identité. Vincent Lindon, est magistral en père débordé. Il offre une performance poignante qui lui a valu la coupe Volpi à Venise. Face à lui, Benjamin Voisin incarne Fouss avec une intensité brute contrastée par la douceur et la retenue de Stéphane Crépon dans le rôle du fils studieux. Le film offre, grâce à leur performance, une réflexion importante sur le déclassement et la radicalisation dans une époque marquée par le désenchantement et la montée des fascismes en France comme ailleurs.
Tu as parfaitement raison, je te suis complètement. Très bonne interprétation de Vincent Lindon, de Benjamin Voisin. Notamment, Vincent Lindon fait un plan séquence lors du procès. Mmh. Enfin, voilà, c'est encore une fois magistral.
Ouais.
Il le tient de bout en bout. Mmh. Voilà, il y a en plus, la mise en scène, je trouve, est très serrée. C'est un monde d'hommes et c'est fait par des femmes. Et puis, eh bien, quand on est père, en plus, il y a une identification qui fonctionne à plein régime. Film hautement recommandable, joué avec le feu en salle depuis le 22 janvier. La réalisatrice de Divine met en scène des mousquetaires femmes, toutes pour une.
Dites-le.
Cinérama.
C'est très clair.
Les mousquetaires sont des femmes.
Alors, je partais avec la ferme intention, alors non pas d'en dire du bien à tout prix, hein, mais de tenter de voler un peu au secours de Toutes pour une, hein, le nouveau long métrage de Ouda Benaïma, après Divine, hein, projet casse-gueule, bah, qui avant même sa sortie fait un peu la risée de la fachosphère sur les réseaux sociaux. Alors, outré qu'une cinéaste maltraite le roman populaire d'Alexandre Dumas pour en faire une version féministe et woke, entre guillemets. Hein. Alors, ce bashing qui révèle avant tout bon, des réflexes un peu réac hein, et monnaie courante aujourd'hui, alors pour répondre à la frange de la population qui ne supporte pas l'altérité, j'ai envie de leur dire que l'on peut bien maltraiter une œuvre selon ses désirs. Alors rien ne doit être sacralisé. Le théâtre d'ailleurs ne s'en prive pas depuis longtemps, et au fond le cinéma aussi. Il n'y a qu'à se remémorer d'ailleurs l'adaptation récente des Trois Mousquetaires, enfin récente qu'il y a une dizaine d'années, par Paul W. Anderson pour s'en convaincre, avec entre autres ces bateaux volants dans les airs, pour se dire que finalement on peut prendre un peu les libertés qu'on veut. Malheureusement, hein, Toutes pour une est un naufrage sidéral.
Vous savez ce qu'on fait aux femmes déguisées en hommes ?
On les pend. Ah !
Déshabille-toi.
Souffrir pour être un homme.
Pourquoi s'enfuit comme ça la reine ?
C'est à cause de Richelieu.
Alors ce n'est pas tant les intentions qui sont problématiques que l'exécution d'un amateurisme qui fait peine à voir. L'excuse du petit budget ne passe pas non plus. Le scénario anémique se cantonne à un seul arc narratif, hein, protéger et ramener la reine de France à son roi par les mousquetaires en jupon, donc accompagnés de D'Artagnan, hein, qui est aussi une femme évidemment, toute affublée de postiches pour ressembler à des hommes. Alors les dialogues sont quand même ringards, hein, il ne suffit pas de dire bite et couille à toutes les répliques pour que ce soit drôle. Les actrices à peine dirigées sont toutes mauvaises, incapables de donner corps à leurs personnages, jouant avec un décalage contemporain qui ne colle pas du tout. La bande-son anachronique est symptomatique de l'opportunisme d'une telle entreprise. Mais le pire, ça reste la mise en scène, hein, qui est bâclée, quoi, qui n'offre même pas le minimum syndical. La photo très moche ne rend jamais justice au magnifique paysage. Le montage est souvent illisible, notamment lors des rares scènes d'action. Et tout est filmé assez platement, hein, en plan moyen, avec une caméra portée. Alors la misandrie farouche du film ne poserait pas de problème si le film avait été abordé avec un minimum de sérieux, ce qui n'est pas du tout antinomique, avec légèreté et modestie. Donc le film français de KPDP féministe reste encore à faire.
Et j'ai l'impression que ça s'entend dans la bande-annonce, hein, que c'est mal joué.
C'est épouvantable.
Ça avait été un tout petit peu tenté par Bernie Bonvoisin avec Blanche et sa Loudoyon, mais c'était tout aussi vulgaire et assez raté aussi. Hein, il y a maintenant presque 20 ans.
Eh bien, ce sera pour une prochaine fois. Toutes pour une, c'était le film dont nous parlions. Et maintenant, nous allons parler d'un grand réalisateur. Il est mort le 15 janvier, c'est David Lynch.
Cinérama.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Alors, quand il y a des grands réalisateurs qui meurent, eh bien, on a tendance à les fêter dans Cinérama et puis à faire un immense blind test pour s'imprégner de leur filmographie pour ceux qui ne connaissent pas les films ou pour ceux qui ont envie de se les remémorer. Et puis aujourd'hui on en profitera aussi pour chacun évoquer le réalisateur américain. Alors on va commencer avec ce blind test, donc 10 extraits, 10 films de David Lynch, ce sont les 10 longs métrages qui sont sortis au cinéma. Premier extrait.
Un hôpital n'est pas un endroit où l'on puisse avoir des secrets. Un médecin qui fait déambuler des fantômes dans les corridors suscite des commentaires. Pourquoi n'a-t-on pas rempli une fiche d'admission ? Pourquoi l'a-t-on isolé des autres malades ? Y a-t-il un risque de contagion?
Ah non, non. Non, il a une bronchite chronique et il a subi des sévices corporels.
Pourquoi n'est-il pas dans la salle commune, alors?
Eh bien, justement, il s'agit de quelqu'un de très difforme et j'ai peur que les malades ne soient impressionnés.
Difforme, c'est-à-dire? Dois-je comprendre qu'il est totalement incurable?
Oui, monsieur.
Vous n'ignorez pas que l'hôpital n'accepte pas les incurables. Le règlement est parfaitement clair sur ce point.
Oui, je sais fort bien, mais le cas est exceptionnel, très exceptionnel.
Ah oui, il y avait plein d'indices.
Ben, c'est Elephant Man.
Eh oui, film de 1980. Donc on est en 1884 à Londres. Le chirurgien Frederick Travis découvre un homme complètement défiguré et difforme, devenu une attraction de foire. Il s'agit de John Merrick. Il l'achète pour l'arracher à son propriétaire. Il le croit complètement stupide alors qu'il se révèle finalement sensible. 2,4 millions d'entrées quand même, hein, pour ce film de David Lynch. Deuxième extrait.
La mer me manquera. Mais il faut vivre de nouvelles expériences. Elle crée au fond de nous des modifications qui nous permettent de nous grandir. Il faut changer, sinon quelque chose sommeille en nous, qui rarement se réveille. Le dormeur doit se réveiller.
Bon, là, gros indice.
Dune.
Oui, film de 1984, le premier roman donc, du cycle de Dune de Frank Herbert. Oscar quand même 85, seulement du meilleur son. Voilà, 2,3 millions d'entrées en France pour ce film. Troisième extrait de ce blind test consacré à David Lynch.
Oh Frank, voilà une bonne surprise et tu as amené tes amis. J'adore les surprises. Prends un siège. Quelle suavité, tu es un garçon rare, tu sais, tu es une sorte de miracle. Tu veux une bière? Avec joie, Frank. Darling. Darling, tu nous apportes des verres. Je veux boire une bière avec Frank. Fais vite, mais asseyez-vous donc.
Cher Ben, ça va chez toi?
Bien, très très bien. Et chez vous?
Foutrement bien. Foutrement bien.
Alors, une étrange situation.
Blue Velvet.
Oui, film de 1986. Effectivement, on est pour l'instant en train de les prendre à peu près dans l'ordre. En trouvant une oreille dans un jardin, Jeffrey va mener l'enquête, mais tomber dans un milieu qu'il ne soupçonnait pas, faisant la rencontre de Dorothy Valence, Isabella Rossellini, et Frank, un psychopathe, Dennis Hopper, qu'on a entendu dans cet extrait avec la voix française. 573 000 entrées en France pour ce film. Un nouvel extrait.
Je veux que tu te remettes au boulot demain au studio. De toute façon, tu voulais remplacer l'actrice principale. Auditionne pour le rôle le plus de filles possible. Quand tu verras la fille qu'on t'a déjà montrée ce matin, tu diras « C'est elle, c'est la fille ». Le reste de la distribution, ça dépend de toi. Mais le premier rôle féminin, le choix de l'actrice qui jouera ce rôle-là, c'est pas de toi que ça dépend. Après ça, tu me reverras seulement une fois. Si tu te conduis bien. Ou bien deux fois. Si tu te conduis mal. Bonsoir.
Ah, il y a souvent des histoires d'actrices qui doivent décrocher un rôle dans les films de David Lynch, c'est trouvé.
C'est Mulholland Drive.
Oui, sorti en 2001, film à énigme, hein, comme Blue Velvet, histoire d'amour dans la cité des rêves. Rêve brisé à Hollywood, 842 000 entrées en France pour ce film. Nouvel extrait de ce blind test.
Avec les pièces et la main d'œuvre, le total se monte à 247 $.
Je trouve que l'addition est un peu lourde pour un travail léger. Vous ne trouvez pas ? Je n'ai que les yeux d'un vieillard, mais... C'est des pneus neufs, ça?
Bon, écoutez, ce sont des pneus de récupération, mais les sculptures sont bonnes.
Mes amis, vous me faites payer pour du bon ou pour du neuf?
Thorvald?
Là, on peut vous faire un petit prix.
Eh bien, je crois que la réduction devrait être d'une trentaine de dollars. Votre stylo est du même avis.
Négociation dans l'Amérique profonde, c'est trouvé.
Une histoire vraie.
Oui, film sorti en 1999, tiré d'une histoire vraie. Le véritable Alvin Streiff a fait ce périple en 1994, c'est-à-dire bien traverser plusieurs États américains avec une tondeuse à gazon. 516 000 entrées en France pour ce film. Un nouvel extrait.
Ma maman, elle fume des mérites ces temps-ci.
Quand j'étais petite, elle fumait des Viceroy. J'étais encore à l'école des petites quand j'ai commencé à lui en voler. À quel âge t'as commencé à fumer, toi?
Je crois que j'ai dû commencer lorsque j'avais 4 ans. Ma mère a cané d'un cancer des poumons un an avant.
Quelle marque est-ce qu'elle fumait?
Des Marlboro, pareil que moi. Je crois bien que ma mère et mon père aussi, c'est le tabac ou l'alcool ou les deux qui les ont tués.
C'est triste tout ça, quel malheur.
Tu tortures pas, chérie. D'ailleurs, je les connaissais à peine, tu sais. Question être parental, j'ai pas été très gâté. À mon procès, mon avocat arrêtait pas de parler de ça.
Trouvé.
Ex aequo avec Guillaume, c'était Sailor et Lula.
Oui, Palme d'Or à Cannes en 90. Sailor et Lula, deux jeunes amoureux, fuient Marietta, la mère de la jeune fille qui s'oppose à leur amour et d'autres personnages. La question est de savoir si l'amour triomphera de la violence qui les entoure. 935 000 entrées en France pour ce film. Nouvel extrait de ce blind test consacré à David Lynch.
Enfin, le film n'a jamais été achevé. Il est arrivé quelque chose avant que le film soit achevé.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été achevé?
Eh bien, les personnages tournaient depuis quelque temps lorsqu'on découvrit quelque chose. C'était quelque chose à l'intérieur de l'histoire.
S'il te plaît, Kingsley.
Les deux premiers rôles furent assassinés.
Trouvé.
C'est Inland Empire.
Oui, film de 2006, film expérimental, un dernier long métrage du réalisateur fait de plusieurs segments qui ne semblent pas d'emblée reliés entre eux. 127 000 entrées en France pour ce film, toute petite audience. Nouvel extrait.
Ne t'avise plus, jamais, de coller ou par choc. Jamais.
Dis-lui que tu le feras plus.
Jamais. Je collerai plus au par choc. Est-ce que tu sais combien de putains de longueurs il faut pour arrêter une voiture à 60 km à l'heure? 6 putains de longueurs de voiture, ce qui fait 35 putains de mètres, connard. Si j'avais freiné brusquement, tu serais rentré dans le chou. Je veux que tu t'achètes un putain de manuel de conduite. Et je veux que tu l'apprennes par cœur, cette saloperie. Et je veux que tu respectes ces saloperies de règles. 50 000 personnes, putain de merde, ont été tuées sur la route l'an dernier à cause de putains d'enfoirés dans ton genre. Dis-moi que tu veux acheter le manuel.
Bon, le respect du code de la route, c'est important.
C'était dans Lost Highway, c'est Monsieur Eddy.
Oui, le film suit un musicien qui commence à recevoir de mystérieuses cassettes VHS de lui et de sa femme dans leur maison. Il est soudainement condamné pour meurtre, après quoi il disparaît inexplicablement grâce à un homme mystère. Il est remplacé par un jeune mécanicien menant une vie bien différente, mais peu à peu, des éléments de son passé ressurgissent. Seulement 383 000 entrées en France pour ce film. Moi, je l'ai vu deux fois en trois jours.
D'ailleurs, tu parlais de Vincent Lindon tout à l'heure. Ce qui est rigolo, c'est que Vincent Lindon a eu à peu près la même scène à tourner, mais chez Colin Serrault.
Ah oui. Enfin, toute proportion gardée, on va dire.
On vous laisse découvrir le film.
Ouais, c'était la crise. Allez, avant-dernier extrait de ce blind test.
Pour l'amour du ciel, Jeffries, où étiez-vous passé? 2 ans qu'on ne vous a pas vu. 2 ans.
Bien sûr, je l'ai tout dit. Et je n'ai guère de temps. Mais croyez-moi, j'ai bien suivi. C'était un rêve. Et nous vivons dans un rêve.
Alors là, c'était un extrait avec la voix française de David Lynch. Il est dans cette séquence, c'est trouvé.
C'est Twin Peaks, le film.
Oui,
Walk With Me.
Oui, sorti en 1992, 415 000 entrées en France pour celui-ci. Dernier extrait. C'est trouvé.
Bah, il restait plus que.
Eh oui, on termine par le premier film, premier long métrage de David Lynch en 77, Eraserhead Labyrinth Man. Un homme est abandonné par son ami qui lui laisse la charge d'un enfant prématuré. Fruit de leur union, il s'enfonce dans un univers fantasmatique pour fuir cette cruelle réalité. 122 000 entrées en France, c'est un tout petit peu moins qu'Inland Empire. Donc voilà, David Lynch est mort. Bien, on va chacun en dire un tout petit quelque chose. Qu'est-ce qui vous reste de David Lynch? Alors très vite, qui commence?
Moi, j'avais envie de parler surtout de Twin Peaks, la série. Je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué, et c'est grâce à ça que j'ai découvert l'univers de David Lynch. C'est pour moi un univers qui est visuel, très imaginaire, et il s'appuie structurellement sur des ambiances sonores très puissantes, mystérieuses, énigmatiques, pour lesquelles Angelo Badalamenti y est pour beaucoup aussi. Ils ont commencé à collaborer ensemble sur Blue Velvet, et puis ils ont créé ensemble, ils ont collaboré créativement sur le thème de Laura Palmer dans Twin Peaks, en fait tous les thèmes de Twin Peaks. Quand j'ai appris que David Lynch était décédé, moi c'est ce thème de Laura Palmer qui résonnait en boucle dans ma tête, parmi d'autres. Mais donc vraiment voilà, cette omniprésence d'une musique très travaillée, je pense que c'est très représentatif de l'univers de Lynch.
Alors, messieurs, qui se lance?
Moi ce serait C'est l'heure et Lula, hein, même si c'est très difficile de choisir. C'est l'heure et Lula parce que je trouve que c'est une histoire d'amour incroyable. C'est à la fois toute la beauté, la naïveté de David Lynch, c'est une l'innocence confrontée au mal le plus abject. Alors c'est très récurrent, hein, chez lui, mais alors là dans C'est l'heure et Lula, ça prend une proportion je trouve incroyable. Je pense sincèrement que le finish, hein, avec Nicolas Cage qui chante Love Me Tender, est peut-être l'une des plus belles de l'histoire du cinéma américain et tout court. Et autre chose, moi ce serait une expérience que j'ai vécue avec Inland Empire, parce que j'ai eu la chance de le voir à l'époque de sa sortie quand j'étais en Angleterre. Je l'ai vu dans une séance de minuit. On aurait dit que le cinéma Odéon c'était le Silencio de Mulholland Drive, et je peux vous dire qu'on n'en ressort pas tout à fait indemne après 3 heures de film aussi frappé.
Manu?
Ben moi, c'est assez classique. Enfin, c'est classique. C'est le Lost Highway, film qui m'a toujours impressionné d'un côté par sa structure très symétrique, hein, ou qui est aussi une histoire d'amour, où c'est l'histoire quand même d'un homme dans deux corps et de deux femmes dans un corps. Et je trouve qu'à partir de là, il crée un univers complètement labyrinthique. Et puis, j'avais été le voir à l'époque avec mon frère, et quand il est rentré dans la salle, quand il est sorti de la salle, il m'a dit, c'est le film où on rentre, on est seul, et on ressort, on est deux.
Ah. Peut-être. Oui. Allez, moi je termine très rapidement. J'avoue que j'aurais pu choisir Lost Highway. Effectivement, je l'ai dit, j'y suis allé 2 fois très très rapidement. J'ai adoré. Mais là, celui qui me l'a le plus surpris, c'est quand même une histoire vraie, parce que j'ai reculé le moment de voir ce film en me disant j'ai pas envie. Voilà, il est très différent. Et finalement, ça m'a complètement subjugué. J'ai été emporté par cette histoire très très simple. Et je me suis dit, mais quel réalisateur quand même.
Film très fordien d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs marrant parce que David Lynch va jouer John Ford dans le film de Spielberg, The Fabelmans. Donc il y a un côté comme ça un peu étrange.
Alors, nous parlions très modestement donc de David Lynch qui a disparu ce mois de janvier.
Et rappelez-vous de cette phrase importante de David Lynch, hein, gardez l'œil sur le donut et pas sur le trou.
Après la naissance de son fils, une ancienne artiste reste chez elle et commence à développer la peur de se transformer en chien. Nous parlons de Night Beach.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement?
Oui. Cinérama.
Le monde devient philosophique.
Amy Adams a un enfant et ça se passe pas très bien. Alors attention à ce que je viens de dire, hein, parce qu'il y a déjà 2 informations trompeuses dans ma première phrase. Hein. Alors ce n'est pas bien sûr Amy Adams elle-même qui a un enfant, mais son personnage dans Night Beach. Alors pourquoi la mentionner elle et pas le nom de ce personnage? Eh bien tout simplement parce que son personnage étant réduit à sa fonction première, hein, au moment des faits où commence le film, elle est identifiée comme mother ou mère, hein, au générique. Ce procédé, par exemple magnifié, hein, par Walter Hill dans The Driver, qui désignait tout son casting par ses fonctions, bah, donne déjà le ton, hein, de ce que le film va ausculter pour mieux analyser. Le fait qu'Amy Adams soit également coproductrice de ce film, hein, preuve de son grand engagement, n'y est pas pour rien. Ensuite, ce n'est pas parce que ça se passe mal avec l'enfant, hein, car mother est une maman attentionnée, mais la maternité commence à lui peser sur la couenne, hein, comme un troupeau de plus sur le pelage d'un chien. Alors ça tombe bien parce que de chien et surtout de chienne, ben c'est de ça dont il va être question. Mother, ça fait penser à l'ordinateur de bord d'Alien. Alors quelque part, nous n'en sommes pas loin, car la Mother de Night Beach est en mode automatique depuis qu'elle a accouché. Elle vit dans une belle maison, a un beau petit garçon, tout va bien en apparence, mais en fait rien ne va. Sous le vernis de ce que la société semble et veut accepter, il y a une femme qui dépérit dans sa maternité, se sent abandonnée par son conjoint qui est régulièrement absent de la maison à cause de son travail et souffre d'avoir mis sa vie artistique, sa principale activité à l'origine, de côté. Alors le ton est donné dès la scène d'introduction avec l'aide d'une voix off, nous étalant les états d'âme de cette femme qui n'est plus femme en ayant accompli le geste le plus féminin qui soit. Hein. Moser est en train de mourir de l'intérieur et le retour de flamme va être en conséquence. Car Moser atteint dès les premières minutes son point de rupture. Elle déteste ce qu'elle est devenue, veut du changement mais ne sait pas comment s'y prendre. Et c'est là que l'argument fantastique se met en place, une métaphore filée pendant tout le reste du long métrage. Moser va se transformer petit à petit la nuit en chienne, d'où le bitch de Night Bitch. C'est un jeu de mots anglais qui joue sur les deux significations de bitch, qui signifie salope, mais aussi de manière familière une femme en colère ou avec un très 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 fort caractère. Alors on pense filer tout droit vers le pur film fantastique métaphorique, utilisant les codes de la légende du loup-garou en le remplaçant par une chienne, ce qui avait bien sûr déjà été fait avec brio par exemple, le petit bijou méconnu de Ginger Snaps, mettant en scène une adolescente mal dans sa peau, se voyant mordue par un loup-garou, et cette mutation devenait une métaphore puissante de sa puberté, sa relation à la sexualité et son enthousiasme dévorant. Mais Night Bitch prend à rebours une nouvelle fois son spectateur dans son dernier acte pour mieux embrasser son message. There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it afar. Night Bitch n'est pas véritablement un film fantastique, mais un portrait de femme assez rondement mené par sa réalisatrice Marielle Heller. Si elle n'avait pas fait trop d'étincelles malgré le sympathique Les Faussaires de Manhattan et le plutôt transparent biopic L'Extraordinaire Mr. Rogers, elle trouve ici un écrin où franchement briller. Hein, Moser est d'abord assez détestable, une figure qui semble être devenue un monstre d'égoïsme à force de renoncement, de manque de conviction et de négligence. Son mari, nommé Father, par lui aussi pour être un cliché du genre sans possibilité d'argumentation. Moser va évoluer grâce à une mise en scène très travaillée, basée sur de longs zooms avant, la coinçant d'abord dans le cadre pour mieux la révéler dans la contrainte par la suite. Et l'heure ne tombe pas dans le piège du carnage, mais opte au contraire pour une évolution positive et fédératrice qui montre que les préoccupations féministes au cinéma peuvent briller quand elles sont finement étudiées en comparaison avec d'autres brûlots actuels, plutôt bruyants et vulgaires comme The Substance. Night Bitch est une agréable surprise, vraiment portée par sa comédienne ultra investie et qui donne à la Jessica Harper de Phantom of the Paradise, Suspiria et Shock Treatment, un petit rôle symbolique de bibliothécaire aidant à la déconstruction du mythe de la sorcière, tout à fait réjouissant dans sa conclusion. Moi je dirais que c'était vraiment une curiosité à voir et qui a été amputée d'une sortie sale chez nous alors qu'elle en a eu droit aux États-Unis, même limitée. C'est dommage, c'est un vrai beau film de cinéma pour ce début d'année.
Road movie féministe et déjanté tourné en 16 mm, c'est ainsi que l'on présente On The Go. Nous en parlons maintenant.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
Oui, oh, ça va là.
Réalisé, produit, écrit et interprété majoritairement par des femmes, On The Go résonne comme un écho lointain au roman culte de Jack Kerouac, Sur la route, manifeste de liberté et d'aventure pour toute une génération et prise de grands espaces. Alors à nouveau, il s'agit bien de tailler la route, de faire le confort d'un système étouffant et aussi là, de repenser le féminisme à l'aune de notre époque. Alors la référence revendiquée des deux réalisatrices est aussi à chercher du côté d'un film underground espagnol du début des années 80, Corridas de Ale Gria de Gonzalo Garcia Pelayo. Ce road movie transgressif réalisé en pleine période Movida sur l'amitié et les désillusions amoureuses sert de modèle à On The Go, joyeux foutoir excentrique. Un cinéma de la marche qui revendique haut et fort ses imperfections et son aspect art brut.
Yo quiero que mi hijo herede de su padre la generosidad. La sinceridad.
L'histoire construite comme un happening pelliculé ne s'embarrasse d'aucune vraisemblance. Milagros, 37 ans, s'interroge sur sa fertilité, sur son désir d'être mère ou non. Sans réfléchir, elle emprunte la Chevrolet de son père pour un périple à travers l'Andalousie. Elle embarque avec elle son ami gay, Jonathan, qui vient de foutre le feu à un bar. Tous deux croisent dans un siquarium une jeune femme étrange qui prétend être une sirène. La fine équipe file droit vers la mer pour une mini-odyssée inattendue, rythmée au son d'une BO endiablée. Maria Gisèle Royo et Julia De Castro, qui interprète également Milagro, signe un film libertaire, sexy et drôle, audacieux et charmant, qui ose la confrontation d'idées contraires perturbant le cheminement des personnages. Alors l'intelligence de cette petite production indépendante tient à l'ambivalence des personnages, tiraillés entre la fuite en avant, anarcho-punk, et puis une envie secrète de se ranger, liée à des injonctions économico-sociales. Tourné en 16 mm avec un budget de $75,000, On The Go procure un plaisir immédiat, une euphorie éphémère, celle d'un conte féministe et camp traversé de visions onirique, d'un humour dévastateur et puis aussi d'une discrète mélancolie.
On The Go est en salle depuis le 22 janvier.
Je vous trouve si nerveux, quelque chose ne va pas ?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Il lui arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier. Merci.
On se retrouve la semaine prochaine. Toi, Manu, tu auras vu le film sur Bob Dylan.
Oui, Un parfait inconnu de James Mangold.
À la semaine prochaine.